Bien, bonsoir. Donc, nous allons commencer cet entretien avec Leandro Ávalos Blacha, qui est donc un auteur argentin. Première question, Leandro, après tout, autant qu'il se présente lui-même. Donc, qui êtes-vous et quel est votre parcours? Où est-ce que vous avez grandi et qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture?
Nací en Argentina en el 80, en una ciudad que está siempre bastante presente por el tipo de ciudad en alguno de los libros, que se llama Quilmes, que es una parte de Buenos Aires. Buenos Aires es nuestra capital, y es uno de los barrios un poco periféricos a la gran ciudad. Me gustó siempre leer, creo que eso fue lo que me llevó de a poco a escribir. Por algún motivo, siempre dije que...
Donc, je suis argentin, je suis née en 1980 à Quilmes, qui est une partie de Buenos Aires. C'est un quartier périphérique du Grand Buenos Aires. Et j'ai toujours aimé lire. Et c'est pour cette raison que je suis arrivée à l'écriture.
Por algún motivo siempre dije que quería ser escritor, aunque no tenía alguna figura vinculada a la literatura o algo así en la familia en sí.
Et donc, pour un motif quelconque, j'ai toujours dit que je voulais être écrivain, malgré le fait qu'il n'y avait personne dans ma famille qui était écrivain et qui était relié à ce milieu.
Después, por algún motivo, ese deseo de escribir se fue haciendo un poco más fuerte. En la universidad estudié letras, orientado a literatura latinoamericana.
Donc, ce désir d'écrire est allé grandissant. Et à l'université, j'ai étudié les lettres, en particulier les lettres d'Amérique latine.
Y también en ese momento empecé a hacer un taller de escritura con un escritor que me gustaba mucho, que se llama Alberto Laiseca.
Donc à ce moment-là, j'ai commencé à participer à un atelier d'écriture avec un écrivain que j'aimais beaucoup qui s'appelle Alberto Laiseca.
Fui muchos años a su taller, estuve entre 7 y 10 años yendo. Aun cuando ya había publicado y algo, seguí yendo mucho tiempo.
Donc, j'ai pratiqué son atelier pendant très longtemps, entre 7 et 10 ans, et après avoir commencé à publier, j'ai continué à le fréquenter.
Y bueno, después se fue dando la publicación de la primera novela por un concurso literario.
Donc, après, j'ai eu l'occasion de publier mon premier roman grâce à un concours littéraire.
Y que bueno, tuvo la suerte de tener un jurado de escritores que son muy conocidos en Argentina.
Donc j'ai eu la chance d'avoir un jury dont faisait partie des écrivains très connus en Argentine.
Y que para entonces creo que para hacer una primera novela ayudó a que tuviera una difusión, un recibimiento bastante importante.
Donc cela a contribué, malgré le fait que ce soit un premier roman, à avoir une distribution et un écho très important.
Y bueno, después fue siguiendo, por suerte fueron siguiendo las otras publicaciones.
Donc ensuite ont suivi les publications suivantes.
Y bueno, y después siempre me gusta mucho de por sí el trabajo de los libros y en paralelo trabajaba para editoriales.
Donc j'ai toujours aimé et j'aime le travail avec les livres et en parallèle de l'écriture, je travaillais pour des maisons d'édition.
Très bien. Alors justement en parlant d'écriture et de livres publiés, on va se pencher un petit peu plus près sur l'œuvre de Leandro. On va commencer par Berasa Chusets, donc le premier roman qui est paru en France. Qui est un objet assez intriguant dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et pour vous faire un peu découvrir l'ambiance, je vais vous lire un petit passage. Dora marchait en tenant Trash par le bras. Elle lui avait prêté sa robe à fleurs la plus grande, bien usée déjà, vieille et déformée. Celle-ci était un peu juste pour Trash et formait une étonnante combinaison avec ses rangers noirs. Dora voulut la faire entrer dans le magasin où elle-même achetait ses vêtements, et Tam. Mais un coup d'œil de l'extérieur suffit à Trash pour savoir qu'elle n'y trouverait rien d'intéressant, et elle indiqua sur le trottoir d'en face une galerie marchande avec une façade de style rock. Pour Dora, c'était un trou à rats. Offusquée, elle annonça que pour rien au monde elle ne mettrait les pieds dans cet antre, et elle les attendit dans la rue. La zombie s'y sentit comme chez elle. Des boutiques rock côtoyaient des magasins d'articles de skate et de surf, des sex shops et des échoppes de tatouages, de piercings et de modes alternatives. Trash s'attarda devant la vitrine d'un tatoueur qui était en train d'afficher de nouvelles photos, des torses, des jambes, des bras, et même quelques zones intimes exhibaient dessins et perforations à l'attention des passants. Visiblement choquée, Milka se mit à tirer Trash par le bras pour passer au large. Elle, au contraire, était fascinée. Et avant de partir, elle adressa un clin d'œil au tatoueur chauve. Dans la boutique suivante, elle acheta tout ce qu'elle voulait. Des t-shirts avec des noms de groupes de rock, un ceinturon clouté, une jupe noire, des collants résille et quelques accessoires supplémentaires. Milka paya l'ensemble tout en n'approuvant rien. Trash inaugura sur le champ ses nouveaux habits. Elle fit quelques trous au collant et rangea la vieille robe dans un sac. Donc voilà le personnage de Trash, qui est donc un personnage de zombie obèse et punk. Alors, donc on a toute une galerie de portraits dans ce roman, donc entre cette zombie punk obèse. On va trouver un espèce de gang de paralytiques qui vont avec une fille en fauteuil roulant qui fait chanter tout un quartier et qui fait du chantage. On a des pingouins dans des vitrines. Donc, parlez-nous un petit peu de cet environnement de Berassachusetts.
Bueno, con el personaje, sobre todo de la zombie, creo que lo que me interesaba era que no molesta tanto en la novela como por ser zombie en sí, sino por un poco por la transgresión que representa casi como en cuanto a lo moral y lo estético.
Donc, ce qui m'intéressait avec le personnage de zombie, c'est qu'elle ne se manifeste pas, elle ne gêne pas dans le roman en tant que zombie, mais en tant que qu'esthétique et morale.
Porque creo que casi todos los personajes humanos de la novela tienen algo que termina siendo mucho más grotesco que la zombie.
Parce que je crois que tous les personnages humains du roman finissent par avoir quelque chose de bien plus grotesque que cette zombie.
Quizás este personaje del fragmento que leíste, Dora, es uno de los más fuertes en ese sentido.
Oui, peut-être que le personnage dont tu as lu l'extrait, Dora, est celui elle est l'un des personnages les plus forts dans ce sens, le plus grotesque.
Que creo que hay algo como un poco del espíritu argentino, algo muy pretencioso.
Je crois qu'il y a quelque chose là de l'état d'esprit argentin ou l'esprit argentin, quelque chose de prétentieux.
De cierto tipo argentino de creerse determinado de determinada o clase social o determinado estrato al que uno no pertenece en realidad.
Donc d'un certain type d'argentin qui se croit faire partie d'une certaine strate sociale à laquelle nous n'appartenons pas.
Creo que por un lado está a nivel muy general, siempre estuvo eso en la Argentina de sentirse más parte de Europa, por ejemplo, que de Latinoamérica.
Donc je pense que c'est quelque chose qui fait partie de l'Argentine de manière générale, c'est-à-dire de se sentir plus proche de l'Europe que de l'Amérique latine.
Y estos personajes tienen esa confusión de querer aparentar sobre todo algo a lo que no pertenecen en realidad.
Et ces personnages portent en eux cette confusion de vouloir avoir l'air d'appartenir sans appartenir.
Y en ese sentido, La novela empieza con un grupo de maestras jubiladas en una escena un poco cotidiana, simplemente de un paseo entre ellas.
Donc dans ce sens le roman commence par une promenade, une sortie de maîtresse à la retraite.
Y que se encuentran en el medio de ese paseo con una mujer tirada que es esta zombie trash.
Oui, et qui pendant leur promenade rencontre tombe sur cette zombie trash qui est abandonnée par terre sur le sol.
Y a toda esta a estas mujeres en definitiva pues no le molesta tanto que el hecho de estar ante una zombie, no es ese quizás el shock más fuerte, sino que les molesta mucho esta cuestión de trash, de ser gorda, de no comportarse como la sociedad un poco espera de uno.
Donc ces femmes ne sont pas du tout gênées par ce personnage, mais c'est plutôt par son aspect, parce que elle est grosse et elle est par terre abandonnée.
Y ahí sí, son todos personajes muy, muy impulsivos, mucho más bestiales que el zombie en sí.
Y là, on voit que tous ces personnages sont des personnages bien plus bestiaux, bien plus brutaux que la zombie en elle-même.
Y en eso creo que tiene que ver como el momento de la época en el que empecé a... No escribirlo, pero que es una novela que trabaja muy con la crisis del 2001 de fondo y como un eco de esa crisis.
Donc et ça, je pense que ça a beaucoup à voir avec le moment, c'est-à-dire la toile de fond de la crise de 2001 en Argentine.
Una crisis social y económica que afectó a todas las clases sociales del país.
Donc une crise sociale qui a touché toutes les classes sociales du pays.
Y que en cuanto al estado de ánimo, al estado social, era realmente un caos y había algo de desenfreno generalizado.
Donc l'état d'esprit, c'était un caos généralisé.
Creo que es algo un poco de ese canibalismo que tienen todos los personajes en la novela.
Je crois que c'est quelque chose qui est du ressort du cannibalisme qui apparaît dans chacun des personnages de ce roman.
Al mismo tiempo, incluso yo ahora justo hace poco estaba viendo algunos documentales que trataban momentos de esa crisis cuando la gente protestaba.
Donc à la fois j'étais en train de regarder des documentaires qui parlaient de cette période où toute la population protestait.
Y algo de lo que está siempre presente, creo, en esos peores momentos y de caos, también es algo un poco festivo.
Et il y a quelque chose qui est toujours présent dans ces moments de chaos, c'est quelque chose d'un peu festif.
La gente estaba así protestando, pero también había murgas tocando y gente bailando, todo en la Plaza de Mayo.
Donc il y avait des gens qui étaient en train de protester et à la fois il y avait des bandes sonores, des gens qui s'amusaient sur la Place de Mai.
Y eso creo que también es algo que está en la novela. Es muy pesimista en algunos sentidos.
Et donc c'est quelque chose qui est très présent dans le roman, il y a quelque chose de très pessimiste.
Pero a la vez creo que tiene un como ese reverso también un poco lúdico y de cierto juego entre todo lo que pasa.
Donc quelque chose de très pessimiste et à la fois quelque chose de très ludique par rapport à tout ce qui se passe.
Me interesaba o es algo que creo que siempre de algún modo aparece que también hay algo del humor funcionando al mismo tiempo de toda esta cosa salvaje y un poco más negra, quizás.
Donc là, on voit quelque chose qui a trait à l'humour, qui ressort de toute cette sauvagerie.
Oui, humoristique, par exemple, on peut citer ces vitrines de pingouins qui sont au coin des rues parce que il se trouve que un des officiels trouve qu'il fait trop chaud, il a envie de neige, il a envie de froid, et donc il fait installer des pingouins dans des vitrines au coin des rues. On trouve aussi quand même une critique sociale assez acerbe avec les riches et les pauvres. Alors, je vais relire un petit passage qui concerne le personnage de Francisco Saavedra, qui est en fait l'ancien maire de Berassa-Chusetts, donc, et qui, maintenant qu'il n'est plus maire, il continue à gérer toutes les affaires du port et il a encore plus de pouvoir que pendant son mandat. Alors, donc voilà le personnage. Francisco Saavedra adorait se servir de son argent pour se distraire aux dépens des pauvres. Dès qu'il voyait un miséreux, et plus il l'était, mieux c'était, il lui faisait aussitôt une proposition extravagante. « Je te donne 100 pesos si tu me laisses te casser une jambe », par exemple. Certains d'entre eux, réellement désespérés, avaient accepté de recevoir 20 pesos par doigt coupé. Dans le cas présent, c'est une fillette qui se présenta pour proposer de table en table des petites cartes porte-bonheur. Les serveurs s'apprêtaient à la chasser quand Saavedra s'interposa, l'air affligé. « Ne soyez pas inhumain, voyons, laissez-la entrer. Viens, ma chérie, » dit-il tout sourire à la petite. En caressant et examinant sa longue chevelure, il lui proposa « Je te donne 100 pesos si tu te rases tout de suite la tête et les sourcils. » Donc là, on est quand même dans une violence sociale extrême. On a aussi ces jeunes riches de banlieue, ces jeunes riches qui font des virées en banlieue à bord de belles voitures et qui obligent des pauvres à violer des femmes en faisant des menaces sur leur famille s'ils refusent de coopérer et qui, en plus, les obligent à filmer les scènes et qui s'en régalent. Donc c'est quand même un climat très, très dur entre riches et pauvres.
Sí, y en relación justo a Francisco Saavedra, es un personaje que en realidad está inspirado en el que es ahora nuestro presidente en Argentina.
Donc le personnage de Francisco Saavedra s'inspire de celui qui est aujourd'hui notre président en Argentine, donc Macri.
En ese momento él apenas empezaba la carrera política y justamente empezó como la figura medio de alcalde o gobernador de la ciudad de Buenos Aires.
Donc à ce moment-là, il commençait tout juste sa carrière politique et il apparaissait comme la figure du gouverneur.
Y tiene que ver también con lo que decías vos de los pingüinos.
Ça a à voir aussi avec ce que tu disais à propos des pingouins.
Porque en realidad todo lo que pasa en relación a Berassa-Chusetts en la ciudad es un poco lo que pasaba con la política de Buenos Aires y que en algún punto es lo que se proyecta para la Argentina ahora como presidente.
Parce qu'en quelque sorte, tout ce qui se passait à Berassa-Chusetts, c'est un parallèle de ce qui se passait et ce qui se passe encore aujourd'hui en Argentine d'un point de vue politique.
En Buenos Aires, hay algo de su política que nunca tuvo ningún tipo de proyecto como para los problemas de fondo de la ciudad.
En effet, à Buenos Aires, il y a dans la politique, il n'y a jamais eu de programme de fond pour la ville.
Sino solamente como de una cuestión puramente superficial y estética, como poner un lindo cartel en un parque, pintar unos cordones en la vereda.
Bon, ça a toujours été quelque chose plutôt d'esthétique et de façade, de repeindre un peu, de passer du vernis sur la façade pour se présenter aux élections.
En algún punto es eso de los pingüinos que ahí está llevado a un punto exagerado y delirante.
Donc là, c'est là qu'apparaissent les pingouins amenés à un climax de manière exagérée.
Son como proyectos puramente inútiles y delirantes. Pero que no tienen ningún tipo de solución para una ciudad que se está cayendo a pedazos.
Donc ce sont en effet des projets totalement inutiles et délirants, surtout face à une ville qui est en train de se délabrer et de s'écrouler.
Y donde bueno, hay realmente mucha gente que queda fuera del sistema. Pero que no se tenía en cuenta en estas políticas.
Donc là dedans, il y a tout un tas de personnes qui restent en dehors du système et dont les politiques ne tiennent absolument pas compte.
Y era un momento donde el conflicto social entre ricos y pobres creo que Desde ese momento cada vez fue, se fue agrandando todavía hasta el día de hoy.
Donc c'est un moment aussi où le conflit social entre riches et pauvres est allé se creusant de plus en plus.
Y de hecho hoy en Argentina hay una violencia social y política muy muy cada vez más fuerte.
Et de fait aujourd'hui, il y a une violence en Argentine, une violence sociale et politique extrêmement forte.
Quizás ya no solo tiene que ver con una clase social, sino con una diferencia ideológica muy fuerte, básicamente de la gente que está apoyando al gobierno actual y la gente que era más favorable al gobierno que se fue.
Donc ce n'est peut-être plus une question de classe sociale, mais plutôt maintenant de différence idéologique entre les gens qui appuient le gouvernement actuel et ceux qui appuyaient le gouvernement précédent.
Pero por algún momento en Argentina siempre estamos como con esos antagonismos muy marcados y que son diferencias que son llevadas con mucha violencia hacia el otro.
Donc en Argentine, nous vivons avec ces antagonismes qui sont très marqués et des différences qui conduisent à une violence très très forte.
Y ahora te diría que incluso hasta hay un segundo, esta oposición política queda en un segundo plano en relación a la violencia que se produce de los hombres hacia las mujeres.
Et donc actuellement, cette opposition politique est en train de rester sur un deuxième plan et cette relation de violence se répercute sur la violence entre les hommes et les femmes, des hommes vers les femmes.
Todos los días hay mujeres que desaparecen, que son violadas, que son asesinadas.
Oui, en effet, tous les jours, il y a des femmes qui disparaissent, qui sont violées, qui sont assassinées.
Así que es como... Me parece que algo que también está muy presente en la literatura argentina, que hay mucha literatura trabajando siempre con esta violencia que se produce a veces de un modo social, cultural, pero que se arraiga de distintos aspectos.
Donc il me semble que cette violence est très présente dans la littérature argentine. Elle s'enracine dans la violence sociale, culturelle.
Alors, je voudrais maintenant aborder un petit peu le deuxième roman, donc Côté court, qui est sorti donc un petit peu après Berassa Chusset. Alors là, on va aussi découvrir juste un tout petit passage et ensuite on parlera un peu de ce qui se passe dans ce roman. Magda vivait avec son mari, lequel était mort aux yeux de la justice. Elle touchait ainsi une pension de veuve qu'elle complétait en prenant des locataires. De préférence, des prisonniers. Dernièrement, on lui avait livré deux frères qui étaient condamnés à 10 ans de prison pour enlèvement. Ils avaient à peine 20 ans. Magda leur accordait beaucoup d'attention, son mari aussi. Elmer ne quittait pas le sous-sol et passait une bonne partie de ses journées à entraîner les prisonniers. Leurs cellules étaient équipées de tapis de sol, d'haltères et de sangles. Il les obligeait à s'exercer. « C'est pour votre bien, leur assurait-il. Ils s'entraînaient en même temps qu'eux. Dans la partie du sous-sol où dormait Elmer, Magda avait fait construire des cages plus petites. C'est là qu'ils enfermaient les autres chiens, ceux que les voisins ne connaissaient pas. Ceux-là passaient leur temps à aboyer et à montrer leurs crocs acérés. Ils cherchaient en permanence à se battre à travers les barreaux. Il y avait des bergers, des pitbulls et quelques bâtards, chacun dans une cage séparée. » Donc en fait, là, on se rend compte que dans cette maison qui a accueilli des prisonniers, en fait, on va entraîner les prisonniers au combat et on va les faire se battre contre des chiens qu'on a dressés à être extrêmement féroces. Et ça, c'est ce qui se passe dans une des maisons de ce quartier. Et on va découvrir que finalement, dans les autres maisons, il se passe des choses tout aussi horribles, puisque chaque maison accueille son lot de prisonniers. Et il y a des choses qui sont extrêmement hallucinantes. Il y a des gens qui jettent les ordures chez les voisins. Il y a un type qui réduit les têtes. Donc là, on est quand même dans un quartier absolument horrible. Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier précisément ?
Yo no viví en un barrio donde pasen esas cosas tan espantosas en sí.
Bueno, moi, je n'ai pas vécu dans un quartier où il se passe des choses aussi horribles.
Pero sí me lo escribí pensando mucho en ese tipo de barrio, como te decía, de la periferia de Buenos Aires.
Mais bon, je l'ai écrit en pensant à ces villes de la périphérie de Buenos Aires où il se passe ce genre de choses.
Que son barrios de casas bajas.
Oui, donc ce sont des banlieues où il y a des maisons, des espèces de maisons mitoyennes, toutes du même pied. C'est quelque chose qui n'existe pas ici.
Que bueno, tienen como comparten todos los patios son casas generalmente con patios que dan unas atrás de los otros.
Voilà, donc ce sont des petites maisons qui ont chacune une cour et les cours sont mitoyennes. Donc il y a un partage de cours.
Y lo que se genera es mucha comunicación entre todas esas casas.
Donc voilà, il se crée une grande communication entre toutes ces maisons et toutes ces cours.
Hay como una comunidad que por lo menos cuando era chico era como una comunidad que se conocía mucho entre sí.
Donc c'est comme une communauté de personnes qui se connaissent très bien entre elles, du moins c'était comme ça quand j'étais petit.
Mundos como casas que se comunican mucho, gente que se conoce, y en algún punto esa es la forma que tomé, me parece, para estos cuentos en sí.
Donc des maisons qui communiquent entre elles, des gens qui se connaissent très bien, et d'une certaine façon c'est le point de départ de ce roman.
Porque en sí son, yo lo escribí en su momento como cuentos aislados, pero que tienen esa comunicación a la vez entre sí, como pasa con estas casas, ¿no?
Donc moi je l'ai écrit comme des contes, c'est pas individuel, mais qui à la fois communiquent de la même façon que ces maisons peuvent communiquer à travers leurs cours.
Y bueno, básicamente es un barrio que tiene la particularidad de que en cada casa se recibe a un preso.
Donc la particularité de ce quartier, c'est que dans chaque maison, on reçoit un prisonnier.
A partir de alojar a un preso en la casa, la gente tiene como un sustento económico para poder sobrevivir.
Donc en échange de recevoir, d'accueillir un prisonnier chez soi, ces personnes reçoivent une rente, un salaire pour cet hébergement.
Y bueno, me interesaba pensar a partir de esa premisa que cada historia desarrollara un tipo de relación distinta con esos presos, qué se generaba entre ellos.
Donc, ce qui m'intéressait, c'était à partir de cette prémisse de penser quel type de relation différente chaque maison aurait avec son prisonnier.
Y en algún punto, quizás en cada una de las historias, había, me parece, algún acercamiento un poco más grande a determinado género o a otro.
Et donc, et parallèlement, dans chaque histoire, il y avait peut-être un rapprochement avec un genre différent également.
En la primera, pensaba que podía ser una historia más casi de melodrama amoroso entre la mujer, una de las mujeres y el preso que recibe.
Dans la première histoire, j'avais l'idée que ça allait être un mélodrame, donc d'une histoire amoureuse entre la femme qui hébergeait ce prisonnier.
Y después en los otros quizás me parece que siempre hay más una historia un poco más ligada al terror.
Et dans les autres, ce sont peut-être des histoires qui sont davantage liées à la terreur, à l'horreur.
La última vez en Épinal, Christophe, justo, él hacía una relación con la cuatrième dimension.
Oui, la dernière fois, donc en 2014, lors d'une table ronde, Christophe faisait allusion à propos de ce livre à la quatrième dimension.
Y eso me gustó y me parece que en algún punto podría haberlo pensado como distintos capítulos en torno a una misma idea.
Et donc c'est quelque chose qui m'a plu, c'est une idée qui m'a plu. J'aurais pu le penser de cette façon autour d'une idée par chapitre.
Hay también en otro aparece como una nena zombie o alguien que tuvo algún tipo de experiencia zombie, donde básicamente es algo también que me atraía mucho de la figura del zombie en sí, en este misterio que representa el estar ante alguien muerto.
Et donc à un autre moment, il y a un personnage, une petite fille zombie. Et ça m'intéressait de travailler sur la figure du zombie avec tout le côté mystérieux qu'elle porte en elle.
Que no estaba en Massachusetts porque justamente Trash es una zombie que habla y es casi un humano.
Voilà, ce qui n'apparaissait pas dans Massachusetts parce que Trash, la zombie de Massachusetts, avait une figure humaine et elle parlait.
Y en este, bueno, justamente se da lo opuesto, que es una especie de científico loco que intenta devolver a la humanidad, tratar de volver humana otra vez a esa criatura ya muerta.
Donc ici c'est l'inverse qui se produit, il s'agit d'un scientifique un peu fou qui essaye de redonner vie à cette zombie déjà morte.
Alors, donc côté court, on trouve aussi quelque chose que j'entrevois un peu comme une espèce de critique du système économique, puisque on se rend compte que toutes les maisons de ce quartier sont possédées par une espèce de grosse entreprise de télécommunications multinationale, et que les gens, s'ils veulent conserver leur maison, doivent composer un nombre minimum de SMS, donc dépenser finalement un maximum d'argent pour enrichir la multinationale. Et s'ils ne le font pas, s'ils n'ont pas leur quota de SMS, ils se font expulser de la maison. Donc là, est-ce que c'est une critique d'une certaine forme de capitalisme, éventuellement en Argentine, le pouvoir des multinationales ?
Por un lado, creo que sí está hay algo del orden político que tiene que ver con lo que mencionas.
Donc d'un certain côté, oui, en effet, il y a quelque chose de la critique politique que tu viens de mencionner.
Porque en lo que te decía de esta gran división que se produce también en la política en Argentina puntualmente, hay algo clave que es el lugar que tiene que ocupar el Estado.
Donc ce que je te disais, c'est que la grande division qui se produit en Argentine ponctuellement d'un point de vue politique a un rapport avec le lieu qu'occupe l'État, la place qu'occupe l'État.
De si el Estado tiene que estar presente para regular la vida de la gente.
Donc il faut que l'État soit présent pour réguler la vie des gens.
O por el contrario, un Estado que simplemente observa y respeta las leyes que el mercado va imponiendo.
Ou alors au contraire un État qui observe et laisse faire les lois du marché qui s'appliquent.
Que creo que son las políticas neoliberales que justamente siempre fueron llevando a las crisis en nuestro país por lo menos.
Et je crois que ce sont les politiques néolibérales, ces politiques néolibérales qui ont toujours conduit à la crise dans mon pays.
Que ya donde ya no hay un Estado que tiene el poder de aplicar sus políticas, sino cuando son las empresas las que dan las políticas que un Estado termina aplicando.
Donc voilà, et on arrive à un État qui ne peut plus appliquer ses politiques, mais un État où ce sont les entreprises qui les imposent, qui imposent les leurs.
Acá por eso creo que es una de esas distopías donde una de las peores, los peores escenarios es esta empresa Fondmar que mencionabas, la que regula y maneja todo.
Donc voilà, là on a l'exemple de l'une de ces dystopies. Ici, il s'agit de l'entreprise Fondmar qui régule elle-même la politique du pays.
Y también creo por otro lado en algo más más propio de nuestra vida cotidiana. La existencia de esta empresa tenía que ver con.
Donc plus proche de notre vie quotidienne, cette entreprise avait à voir avec.
Tenía que ver con la importancia que en la que estamos, la importancia que nosotros mismos pusimos la tecnología casi como un nuevo dios.
Donc c'est un rapport avec le pouvoir que nous avons, la place que nous avons accordée nous-mêmes à aux nouvelles technologies que l'on voit, que l'on place comme un nouveau dieu.
Y cómo nosotros ahora pasamos a estar dominados y pendientes todo el tiempo de los teléfonos, de internet, y que al punto de tener una dependencia enorme con eso.
Et comme nous arrivons au point où nous sommes tout le temps happés par nos ordinateurs, internet, téléphone, on arrive à cela.
Alors parlons maintenant du roman qui est sorti plus récemment, donc Malicia. Alors dans Malicia, en fait, on a un couple, Juan Carlos et Perla. Ils viennent de se marier et ils vont donc partir en voyage de noces avec un ami de Juan Carlos qui s'appelle Mauricio et qui en fait est aussi un peu le souffre-douleur de Juan Carlos. Et donc ils partent tous les trois pour la lune de miel dans une station balnéaire qui est réputée pour ses casinos et ses cabarets. Et là, évidemment, la lune de miel ne va pas se passer comme prévu, puisque va se mêler de la partie un tueur psychopathe qui va commencer à massacrer des filles de cabaret, qui va d'ailleurs s'attaquer à Perla, mais ne va pas réussir à la tuer. Et à partir de là, on va avoir un joyeux mélange entre médium, paranormal, extraterrestre, des non-satanistes. Alors, pour juste résumer l'ambiance, un petit passage. Comme envahi par une horde de sauvages, le parc s'emplit d'hommes et de femmes nus, certains courant pour se rendre, d'autres essayant de s'enfuir, d'autres encore, bien armés, décidés à en découdre. Aux premières salves, les policiers s'abritèrent derrière les arbres et les véhicules, en s'abstenant de tirer. Ils auraient risqué de blesser ceux qui se rendaient pacifiquement. Mais très vite, ils virent leurs attaquants utiliser ces derniers comme boucliers ou simplement les abattre. Cette fois, les agents ripostèrent. Ces vedettes du showbiz maniaient la mitraillette avec une adresse étonnante, et leurs armes étaient beaucoup plus puissantes que celles de la police. Di Luca avait réussi à traîner Mauricio à l'abri derrière un muret. Il le réveilla de quelques gifles bien senties. « Tu m'entends, mon gars? Tu m'entends ?» Mauricio acquiesça et l'étreignit impulsivement. Il le supplia en pleurant de l'emmener loin d'ici. Di Luca l'écarta fermement. Il ne voulait pas paraître brutal, mais il n'avait pas un instant à perdre. « N'entrez pas !» geignait Mauricio. « Elles vont vous tuer! Elles ne sont pas humaines !» Des cris de panique dans le parc attirèrent l'attention de Di Luca. C'était la voix de ses hommes et il ne s'effrayait pas facilement. Mauricio lui souhaita bonne chance, puis profita de la diversion pour se précipiter dans l'autre direction et se jeter la tête la première dans le lac. Jetant un coup d'œil par-dessus le muret, le commissaire vit les nonnes lancer à quatre pattes comme des bêtes sauvages, massacrer les policiers sans même leur laisser le temps d'utiliser leurs armes, esquivant les balles et leur ouvrant la gorge à coups de griffes. Malicia courait parmi la meute. Di Luca décida de tirer parti de la confusion pour atteindre l'arrière de la maison sans être remarqué. Donc voilà, on a une bande de nonnes assez furieuses. Donc, avant même de parler du roman, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous mettez dans votre maté avant d'écrire? Parce que c'est quand même une substance assez puissante. Donc en fait, dans Malicia, on a une espèce de roman qui mélange beaucoup de choses et qui s'apparente un peu au film de Dario Argento. Hein, ça fait penser un peu à ces films un peu gore d'une certaine époque.
Sí, me encantan las películas de Argento y todo ese cine italiano que tuvo que ver con el giallo.
Donc j'adore en effet tous les films de Dario Argento et tous les films qui ont un rapport avec le giallo.
Justamente por esa mezcla que tienen de muchas cosas, muchos géneros distintos.
Justement à cause de ce mélange, parce qu'ils ont un mélange de plein de genres différents.
mezclas que muchas veces no resultan demasiado bien en las películas, quizás no son tan buenas a veces.
Donc des mélanges qui ne sont pas très heureux parfois dans les films.
Pero que siempre me interesaron por algo, por una búsqueda me parece muy auténtica en las cosas que se animan a abordar, por lo menos.
Donc mais ça m'a toujours intéressé à cause des thèmes très singuliers qu'ils osent aborder.
Por un lado me gusta que siempre hay una historia que tiene que ver con el policial, pero que se cruza con caminos fantásticos vinculados al horror.
Donc ce que j'aime c'est que ça a toujours à voir avec le roman policier, mais ça se mélange avec l'horreur et le fantastique.
Y que a la vez como que dentro de esa estructura básica muchos también tuvieron quizás abordajes más ligados a lo erótico.
Dans ces structures de base, il y a aussi d'autres thèmes qui sont abordés comme le côté érotique.
O historias realmente delirantes, casi surrealistas, con una estética muy propia como de los años 60.
Ou alors des histoires très délirantes, comme les histoires que l'on développait dans les années 60.
Incluso a veces sirviéndose de discursos como que eran discursos en boga de la época, como el psicoanálisis, por ejemplo.
Qui se servent parfois des discours qui étaient en vogue à l'époque, comme la psychanalyse, par exemple.
Y a partir de ahí siempre tuve ganas de hacer una novela que tuviera un mundo un poco cercano a eso.
Et à partir de là, j'ai toujours eu envie d'écrire un roman qui s'approche de ces univers.
Cuando en unas vacaciones pasé por esta ciudad de Córdoba, que es una ciudad balnearia cada vez más importante en Argentina.
Donc une fois lorsque en vacances, je suis passé près de cette ville de Córdoba qui est un lieu balnéaire assez important en Argentine.
Me impactó mucho la intensidad que se vivía en ese lugar.
Donc ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était l'intensité de ce qu'on pouvait vivre dans ce lieu.
Es una ciudad muy chiquita en estructura con toda una serie de teatros que cada vez son más grandes.
Donc c'est une ville toute petite avec une toute petite infrastructure mais avec une série de théâtres qui se développe de plus en plus.
Y en el verano entonces van muchas veces a hacer obras tipo cabaret, dice comedias, pero con todos los actores que suelen estar trabajando durante el año en la tele.
Et donc l'été, il se produit des cabarets, il se monte des comédies avec les acteurs qui pendant l'année travaillent à la télévision.
Y hay una histeria muy grande, va mucha gente fanática a ver estos actores.
Il y a une grande hystérie, beaucoup de gens qui vont voir se produire ces acteurs.
A la vez están todos los medios de espectáculos en la ciudad, los paparazzis haciendo notas en todas las esquinas.
Donc on a les médias qui sont ultra présents avec les paparazzi à chaque coin de rue qui sont là pour faire leurs papiers.
Y hay una proximidad muy grande entre la gente y esos actores. Todo se pasa en las calles. No hay una distancia.
Donc il y a une très grande proximité entre les gens et ces vedettes et tout se passe dans la rue. Il n'y a pas de distance.
Y me parecía que bueno, toda esa histeria era como el lugar ideal para ambientar una historia de este tipo.
Et donc toute cette hystérie était pour moi un lieu idéal pour donner la toile de fond et l'ambiance à ce récit.
También porque en los giallos siempre hay muchos entornos que tienen que ver con, por un lado, con lo artístico y también donde es muy muy fuerte la presencia de las mujeres.
Donc c'est aussi parce que dans le giallo, il y a toujours une grande présence artistique et aussi des femmes prépondérantes.
Algunos ambientados en óperas, en teatros, en academias de modelos.
Donc, qui se produisent dans des opéras, des théâtres, dans des écoles pour devenir mannequin.
Y en ese sentido me servía este ambiente de las vedettes.
Et dans ce sens, cette ambiance de vedette me servait pour l'écriture.
Y me gustaba del diálogo además que las mujeres no son solo como las víctimas, como suele pasar a veces en las películas americanas más tipo del slasher.
Donc, ce qui me plaisait aussi dans le dialogue, c'est que les femmes ne sont pas seulement des victimes comme on a l'habitude de le voir dans les films nord-américains comme le slasher.
Sino que muchas veces tienen un lugar muy activo en toda la trama y casi en el lugar mismo de asesinos también.
Et donc elles jouent toujours, elles occupent toujours une place très active dans l'histoire et par rapport aux assassins également.
Y creo que también eso tenía que ver con los personajes que suelen estar en las novelas, que generalmente son mujeres las que más llevan adelante las historias.
Donc ça a à voir aussi avec mes personnages, ce sont souvent des femmes qui portent l'histoire et la font avancer.
Y a todo esto creo que después se le mezcló otra línea también muy presente en la novela que tiene que ver con los cómics.
Et il y a aussi un autre mélange, un ajout qui vient des comics, des BD.
Porque cuando pensaba en el diálogo había algo de la figura del Joker de los cómics que lo sentía un poco próximo a lo que podía ser un asesino típico.
Donc parce que quand je pensais au giallo, il y avait cette figure du Joker qui me paraissait très proche de la figure qui s'approchait le plus de la figure de l'assassin.
Entonces en esta temporada de verano de la que habla la novela, todas esas obras medio de cabaret cuentan una historia que tiene que ver con la vida del Joker básicamente.
Et donc pendant cette saison estivale, toutes les histoires de cabaret racontent quelque chose qui a à voir avec le Joker.
Y al mismo tiempo es una esta ciudad tiene una particularidad que está cerca del Cerro Uritorco de Córdoba, que es muy conocido por la gente que se interesa en la ufología.
Donc cette ville est très proche de quoi, de Córdoba?
Cerro Uritorco.
De Cerro Uritorco, de Córdoba en Argentine.
Que es un lugar al que va la gente a... dicen que hay una energía muy particular y donde se dice que hay mucho avistaje de ovnis.
Donc c'est un lieu où il y a une énergie très particulière, où beaucoup de gens vont parce qu'on a vu apparaître là des ovnis.
Entonces hay toda una zona cercana que en la que también la imaginería ligada a los ovnis está muy presente todo el tiempo.
Donc c'est une zone, il y a une zone très proche de là où l'imaginaire se concentre sur l'apparition des ovnis.
Y a partir de todo eso también pensaba que podía ser el lugar ideal para cruzar todas esas cosas muy disímiles, pero que podían convivir ahí.
Et donc à partir de là, il me semblait que c'était un endroit idéal pour le croisement de choses similaires qui pouvaient cohabiter dans ce même lieu.
Alors pour revenir un petit peu de façon plus large, un petit peu tout ce qui motive votre écriture, moi il y a quelque chose qui me saute un peu aux yeux quand j'ai lu vos livres, c'est un parallèle que je pourrais faire avec les écrits de Yoss, que je connais très bien. On trouve, vous avez une manière de réinjecter dans votre écriture des problématiques locales et sociales propres à votre pays, tous les deux. Est-ce que c'est une tendance un peu plus générale de la littérature latino-américaine ?
Ahora, yo creo que sí. Cuando la primera vez que leí a Yoss a partir de venir al festival y conocerlo, justamente también me sorprendió mucho que era una novela muy muy cercana al tipo de escritura del escritor que te mencionaba, Alberto Laiseca.
Donc c'est ce qui a attiré mon attention, en effet, oui, puisque la première fois que je suis venue aux Imaginales et que j'ai fait la connaissance de Joss, et avant de le lire, j'ai découvert qu'il y avait des thématiques très proches et qui se rapprochent également donc, de son écriture, mais aussi de Laiseca.
Y es por, sobre todo por lo que se está escribiendo y publicando ahora, que sí es muy variado. Pero creo que se puede ver una tendencia, en primer lugar, una apertura cada vez mayor a otros géneros literarios que ya no es solo tanto el policial.
Donc en effet, c'est une tendance actuelle, même si se publie des choses très variées, c'est une tendance qui va en s'accentuant et qui ne se centre plus seulement sur le policier.
Hay autores que cada vez más se ve que trabajan con la ciencia ficción. El terror también es un género que está cada vez más presente.
Il y a de plus en plus d'auteurs qui travaillent avec la science-fiction et avec l'horreur qui est de plus en plus présente.
Las escritoras en el momento más jóvenes y que están teniendo mayor repercusión, de hecho, afuera, que más están siendo traducidas, son justamente escritoras que están trabajando el fantástico y el terror.
Actuellement, les auteurs qui s'exportent le plus, qui sont le plus traduites, ce sont des auteurs qui écrivent à partir de l'horreur et de la science-fiction.
Y que creo que en todo se da esta particularidad de que también está muy presente lo social.
Il y a aussi cette particularité que le social, l'aspect social est très présent également.
Y que está presente de un modo, creo que no es presentar esa realidad social como una cosa exótica para el exterior.
Et il ne s'agit pas de présenter la chose sociale comme quelque chose d'exotique pour le récepteur extérieur.
Que es muy interesante el modo en que aparece. Y que cuando uno puede leer lo que está pasando en colegas en Chile, en Bolivia, en Uruguay, hay una situación incluso.
Donc c'est très intéressant de voir la façon dont ça transparaît. On peut, comme on le voit chez des auteurs au Chili, en Bolivie, en Uruguay.
Es difícil porque no hay. Es absurdo, en realidad, que no hay tanta comunicación entre lo que está pasando en todos estos países. Es muy difícil que los libros de Argentina viajen al resto de Latinoamérica y viceversa, que lleguen cosas de Latinoamérica a Argentina.
Donc c'est très difficile en réalité, et puis c'est absurde, c'est que la communication entre ces pays d'Amérique latine ne se fait pas facilement, et il est très difficile qu'il arrive en Argentine de la littérature de ces autres pays.
Todo un continente comparte una lengua y no puede darse esa conexión de las literaturas.
Donc c'est un continent qui partage une langue, mais qui ne peut pas avoir cette communication entre les différentes littératures.
Pero que cuando uno consigue hacerlo por algún modo, cuando un escritor o viaja o se da ese intercambio, se ve que en todo se está produciendo una cosa muy similar.
Mais lorsqu'on réussit à communiquer, qu'un auteur voyage par exemple ou que l'échange se produit, on se rend compte que cette thématique apparaît dans toutes les œuvres.
Alors sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler actuellement?
Por un lado, tengo la idea de continuar Malicia.
D'une part, j'ai l'intention de continuer Malicia.
Que en este caso tiene un final un poco abierto en torno a algo vinculado a un anticristo que puede o no estar dando vueltas por Córdoba.
Donc, puisque il y a là une fin ouverte. qui se développe autour d'un possible antéchrist qui naîtrait.
En Malicia habían unos también algunos personajes que tenían que ver con Detectives de fenómenos un poco paranormales.
Tipo. Il y avait aussi là dans ma liste, il y a des personnages qui étaient des détectives qui se chargeaient de phénomènes paranormaux.
Entonces, lo que estoy escribiendo ahora en particular es una historia que es como un puente entre malicia y ese y esa continuación que todavía no empecé.
Donc, ce que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est un pont entre malicia et ce qui se projette là et que je n'ai pas encore écrit.
Y que es un tiene que ver con esto, con estos detectives paranormales que viajan, está ambientada en Francia. Y viajan para investigar un tipo de fenómenos de este tipo.
Donc, ça a à voir avec ces détectives du paranormal et cette action se passe en France et donc ils voyagent pour faire de la recherche à ce propos.
Y la idea, en realidad, sé que así como quizás estuvo en Malicia este trabajo con el Yalo, la idea de esa continuación. Por ahora pienso que va a ser hacer un trabajo así en relación al western.
Ah, y como on l'a vu dans Malicia, la idea qui me ramenait au giallo, ça serait d'exploiter la toile de fond du western.
Ça va paraître très très alléchant, on est impatients de lire ça. Donc nous sommes venus au bout du temps qui nous était imparti. Donc je vous conseille très très vivement la lecture donc des romans de Leandro Avalos Blacha, donc Berra Sachusetts qui vient de sortir en poche chez Folio SF, Côté court aux éditions Asphalt et plus récemment donc Malicia également aux mêmes éditions Asphalt. Vous pourrez rencontrer Leandro demain à la Bulle du Livre en dédicace si vous voulez le voir et lui poser des questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Leandro. Je remercie Jessica Diaz-Quiroga, la traductrice.